Le journal Alexis de Meyer. Bonjour Alexis.
Bonjour. Bientôt le retour de l'alcool dans les stades. Une centaine de députés La République En Marche ont en tout cas déposé une proposition de loi dans ce sens. Un projet qui ne plaît pas du tout aux associations de lutte contre l'alcoolisme. Toujours pas de nouvelles de la jeune française Nora Kouarin en Malaisie. L'adolescente a disparu depuis le week-end dernier. Sa famille craint un kidnapping. Donald Trump est attendu à El Paso cet après-midi après la tuerie de samedi. Attendu au tournant par ses détracteurs qui lui reprochent d'avoir une politique trop laxiste sur les armes à feu. Du football aussi, avec dans 48 heures la reprise de la Ligue 1. Après plusieurs saisons en demi-teinte, l'OM souhaite retrouver le podium. Sur le banc marseillais, un nouvel entraîneur, le portugais Villas-Boas, qu'on entendra.
Notre invité à 8h moins le quart, Charlotte Thomas, qui est chercheuse au Centre d'études des relations internationales de Sciences Po Paris. Avec elle, question sur cette décision du gouvernement de New Delhi qui a mis fin à l'autonomie du Cachemire indien. Pourquoi cette décision? Quelles conséquences? Question donc pour Charlotte Thomas.
France Inter.
Hier, le ministère de la Santé a officiellement débloqué un budget de 120 millions d'euros pour lutter contre les addictions au tabac, mais aussi à l'alcool. Mais fin juillet, c'est une toute autre initiative qu'avait prise une centaine de députés LREM, une proposition de loi qui vise à assouplir la loi Evin en rétablissant l'autorisation de vente d'alcool dans les stades professionnels. La nouvelle n'a pas manqué de faire réagir les militants anti-alcool, Véronique Julien.
Les députés à l'origine du texte ne s'en cachent pas. Réautoriser cette vente d'alcool, c'est permettre aux clubs professionnels de gagner de l'argent. C'est aussi mettre fin à une injustice. Malgré la loi Evin, les clubs amateurs bénéficient déjà de dérogations pour vendre des bières et dans les loges VIP des grands stades, la loi Evin ne s'applique pas, le champagne peut déjà y couler à flot. Pour le député Belkir Belhadad, député En Marche de Moselle, l'article 18 uniformiserait la situation. Qui plus est, dit-il, arrêtons l'hypocrisie. Les supporters boivent déjà aux abords des stades et sa personne n'y trouve à redire.
Vous avez été voir un certain nombre de matchs. Combien de buvettes vous avez à l'extérieur et qui sont pas dans l'enceinte sportive. Moi, je préfère que ça se fasse de manière encadrée que de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
On buvait avant, peut-être. Maintenant, on boira avant et pendant le match, réplique Bernard Basset, qui ne décolère pas. Pour le vice-président de l'AMPA, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, on va encore banaliser la consommation d'alcool chez les jeunes pour satisfaire le lobby alcoolier.
Ça fait des années que le lobby de l'alcool milite pour la réintroduction de l'alcool dans les stades. Depuis que les Jeux Olympiques ont été attribués à la France, on dit ça va être l'occasion pour le lobby alcoolier d'avancer ses pions. C'est ce qui se passe. Ils se font le relais de ce lobby. Ils trouvent des arguments d'une tartufferie épouvantable.
Plus de 110 députés de la majorité présidentielle soutiennent ce texte. Ils en espèrent l'examen cet automne.
Véronique Julia, et je vous précise qu'un article est à retrouver sur notre site franceinter.fr. D'importantes recherches en Malaisie pour tenter de retrouver une adolescente française. Près de 200 policiers avec l'appui d'un hélicoptère continuent d'inspecter les environs de l'hôtel dans lequel Nora Kouarin a été vue pour la dernière fois, c'était samedi soir. L'hôtel est situé à proximité d'une forêt tropicale, à une soixantaine de kilomètres de la capitale Kuala Lumpur. La famille de la jeune fille âgée de 15 ans redoute un enlèvement, Yann Gallic.
Nora Kouarin venait d'arriver en Malaisie pour y passer 2 semaines de vacances avec sa famille. L'adolescente était hébergée dans un bungalow en pleine forêt tropicale. Mais dimanche matin, quand ses parents sont venus la réveiller, Nora n'était plus dans la chambre qu'elle partageait avec son frère et sa sœur. La fenêtre était ouverte, la jeune fille de 15 ans a disparu en laissant toutes ses affaires, explique son grand-père, Sylvain Kouarin.
Il y a deux solutions, soit Nora est sortie d'elle-même et s'est perdue, ce qui est quasiment peu probable. C'est une fille qui souffre d'un léger handicap, donc c'est quelqu'un de très refermé, c'est une fille qui ne prendrait jamais cette initiative, d'autant plus que quand vous sortez par terre, c'est des cailloux ou des épines, je veux dire, on ne peut pas aller très loin, hein. Donc moi, je soupçonne un enlèvement.
Pour l'instant, les autorités malaisiennes traitent cette affaire comme une disparition avec d'importants moyens déployés. Hier, près de 200 personnes et un hélicoptère ont été mobilisés dans les opérations de recherche.
Ils ont mis des moyens humains énormes dans la jungle, des spécialistes, des chiens. Les autorités françaises ont pris un engagement très très sérieux de cette affaire. Donc on peut dire maintenant que les choses se mettent en place au niveau administratif de façon puissante et j'espère efficace.
Sur Internet, un réseau de solidarité s'est déjà mis en place avec une plateforme de financement participatif pour aider la famille de Nora, car les recherches risquent de durer dans cette jungle tropicale qui n'est pas considérée comme une zone à risque par le ministère des Affaires étrangères.
7h35, Alexis de Meyer, cette journée de mercredi s'annonce délicate pour le président américain.
Donald Trump va se rendre successivement ce mercredi à Dayton, dans l'Ohio, puis au Texas, à El Paso. Le week-end dernier, des tueries de masse dans ces deux villes ont fait 31 morts. En début de semaine, Le président Trump a condamné la haine et le suprémacisme blanc, mais n'a pas annoncé de mesures fédérales sur le contrôle des armes à feu. Actuellement, chaque État américain dispose de sa propre législation sur les armes, avec parmi les États les plus stricts sur cette question, le Connecticut, qui avait connu il y a 7 ans l'une des tueries les plus meurtrières de l'histoire récente des États-Unis. Grégory Phillips.
Le 14 décembre 2012, un jeune homme pénètre à l'intérieur de l'école primaire Sandy Hook à Newton et en quelques minutes abat 20 petits élèves et 6 enseignants. Depuis, le Connecticut a considérablement renforcé son arsenal législatif. Avec la Californie et le New Jersey, c'est l'un des États les plus stricts en matière d'armes à feu. Contrôle des antécédents, même pour la revente d'armes entre particuliers, interdiction des fusils d'assaut et surtout une loi dite du drapeau rouge où la justice peut saisir une arme chez une personne considérée par ses proches comme dangereuse pour elle ou pour la société. 7 ans après Sandy Hook, le Connecticut enregistre un taux de mort par balle parmi les plus faibles du pays, mais nous ne pouvons rien faire si nous sommes seuls, dit le sénateur démocrate Blumenthal. Les armes traversent les frontières, n'importe qui peut acheter un fusil dans un état moins restrictif comme l'Alabama, l'Arkansas ou le Colorado. Le tireur de Dayton, Ohio, avait commandé son fusil automatique AR-15 à une armurerie texane de manière absolument légale. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Les excuses du chef de la police de Galveston au Texas. Hier, les images d'un homme noir attaché avec une corde tenue par un policier à cheval avaient provoqué une vague d'indignation pour des dizaines de milliers d'internautes. Les photos de cette arrestation évoquent directement les lynchages au temps de l'esclavage. Nos agents ont pris une mauvaise décision et mon devoir est de m'excuser auprès de Monsieur Neely pour cet embarras inutile. Voilà ce qu'a déclaré cette nuit le patron de la police de cette ville proche de Houston. L'homme qui apparaît sur les photos, Donald Neely, 43 ans, venait d'être arrêté pour violation de propriété. On apprend à l'instant qu'une énorme explosion a retenti dans la capitale afghane Kaboul, faisant apparaître un champignon de fumée dans le ciel et craindre d'importantes pertes civiles. Un remake de l'Auberge espagnole cet été dans la Manche. Une douzaine de jeunes bénévoles venus du monde entier participent à un impressionnant chantier, la rénovation d'une ferme à Saint-André-de-Beauhon, c'est près de 40 ans. Le reportage polyglotte de Lucie Tuilé.
Elle est japonaise, lui mexicain, il est français, elle allemande, il se parle en anglais, teinté parfois de français ou d'espagnol.
Un peu plus, falta más aquí.
On n'a pas la même langue, chacun son langue. Donc, si tu voulais expliquer des choses, donc tu fais la mer.
Le langage des mains remplace souvent celui des mots, mais peu importe, du moment qu'on arrive à se comprendre, sourit Lamine, 17 ans, lui vient de Guinée.
On rigole ensemble, on travaille, c'est sympa aussi, ça me fait plaisir aussi.
Tous ici ont le même objectif, apprendre à rénover les murs de cette vieille ferme dans les marais.
Moi, ce qui me plaît, c'est la transmission du savoir.
Avec Alexandre, leur formateur, un ancien maçon, ils enlèvent les joints de ciment entre les pierres, ils les remplacent par du mortier. Ulysse est mexicain, c'est son premier chantier international.
Je suis architecte. Je voulais connaître des méthodes d'autres pays, connaître une autre architecture, d'autres lieux, d'autres cultures. Ce que j'ai trouvé ici, c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé.
Maud de l'association Concordia organise la vie du groupe qui, en plus du chantier, participe aussi aux animations de la commune.
On essaye de créer quelque chose d'interculturel, mais aussi d'intergénérationnel avec les voisins, les locaux, pour chacun partager nos expériences.
Au programme de ces 3 semaines, également un peu de tourisme au Mont-Saint-Michel, puis sur les plages du débarquement. Lucie Tulé, France Bleu Cotentin pour France Inter.
Les sports, Alexis, à 2 jours de la reprise de la Ligue 1 de football, on va s'intéresser à un club qui sera particulièrement scruté en ce début de saison.
L'OM, l'Olympique de Marseille, qui doit se relancer après une laborieuse fin de parcours au printemps dernier. Les Marseillais ont terminé la saison à la 5e place du classement. Depuis, plusieurs joueurs cadres sont partis, d'autres encore sont annoncés sur le départ. Et le Portugais André Villas-Boas a succédé à Rudy Garcia au poste d'entraîneur. Tony Sellier, l'objectif affiché par les dirigeants de l'OM est de finir cette fois-ci parmi les 3 premiers du championnat.
En 2 saisons et demie, c'est simple, Rudy Garcia n'a jamais réussi à ramener l'OM sur le podium. Échec, siège éjectable, c'est maintenant le Portugais André Villas-Boas qui vient bâtir l'acte 2 de l'ère McCourt. Et l'objectif n'a pas changé, alors que le nouvel entraîneur doit composer avec une marge de manœuvre financière très réduite.
L'effectif cette année va être un peu plus court avec des jeunes joueurs. C'est une nouvelle réalité pour nous. Cette année est évidemment une année plus difficile.
Pour l'instant, 2 recrues seulement. Un défenseur espagnol, Alvaro González, et un buteur argentin, Dario Benedetto, qui va jouer en Europe pour la première fois de sa carrière à 29 ans. Beaucoup plus de départs, surtout Mario Balotelli, qui ne sera resté que 6 mois, et le combattant Lucas Ocampos, transféré en Espagne. Sur le papier, ça paraît court pour jouer dans la cour des grands, Mais l'OM de Steve Mandanda doit de toute façon se racheter de sa saison blanche.
C'est à l'effectif au complet de redorer, on va dire, cette image. C'est pas que un tel ou un tel. Si on veut faire quelque chose de bien, ça sera tous ensemble avec les anciens et les jeunes.
Sans Coupe d'Europe, profil bas mais ambitieux, l'OM de Villas-Boas devrait donc puiser dans ses réserves pour se refaire une santé. Une cure de jouvence nécessaire, mais un sacré pari quand même pour espérer retrouver la Ligue des Champions.
Ouais, une cure de jouvence aussi pour les Playmobil. 45 ans après leur création, les figurines en plastique ont l'honneur ce mercredi d'une sortie sur grand écran. Playmobil, le film, va tenter de concurrencer les différents volets de la grande aventure Lego et leurs dizaines de millions d'entrées dans le monde. Playmobil versus Lego, un duel tout terrain, Corinne Pellissier.
Dans une heure, tu devras te battre pour ta vie dans mon arène.
La rivalité Lego-Playmobil n'est pas uniquement commerciale. Sur Internet aussi, le combat fait rage. Jusqu'à 200 000 vues pour les vidéos les plus populaires sur YouTube. Des fans qui filment et mettent en ligne des figurines en train de s'affronter. Un peu comme le font dans le film Marla et son petit frère Charlie. À la différence qu'eux ont choisi leur camp. Pas de super-héros Marvel ni de briques à empiler, mais des chevaliers et des vikings dans la grande tradition des Playmobil. Tous les ingrédients qui ont fait pendant 40 ans le succès de la franchise sont là. Le château de la princesse, le bateau pirate, l'univers du western, compilé dans une série d'aventures menées tambour battant par nos deux héros, qui se retrouvent un jour propulsés par accident dans ce monde féerique.
Il y a à peine une minute, j'étais avec mon frère Charlie. C'est magique ! Non, Charlie, fais pas ça ! Et maintenant, nous voilà.
Un spectacle beaucoup plus sage que la grande aventure Lego, déjà déclinée au cinéma en plusieurs épisodes, mais qui devrait plaire aux enfants, notamment le personnage de l'agent secret, le conducteur du food truck, déjà disponible en figurines dans le commerce. L'animation, entre images de synthèse 3D et prises de vue réelles, est supervisée par un ancien de chez Disney, qui avait contribué, entre autres, au succès de La Reine des Neiges.
Coup de bol pour toi, j'ai des contacts un petit peu partout.
Alors, prêt pour le fun ?
Ouais ! Pourquoi ?
Cours !
Et parmi les autres films à l'affiche cette semaine, une grande fille du russe Kantemir Balagov, le parcours de deux jeunes femmes dans le Leningrad de 1945 et dans un tout autre genre, le 9e opus de la pétaradante saga Fast and Furious.
C'était Alexis Demeyer pour Le Journal.